Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce.
Big Beko Pengolo. Ah. J'ai l'ombre la bise. Il y a un tarif, tu coulou. Tu coulou, je n'ai pas de tarif. Je n'ai pas de tarif.
C'est du jamais vu. C'est comme un cauchemar.
Congo avec un K, c'est un documentaire réalisé par le tandem Adrien Lavapeur, Corto Vaclav, nom ultra stylé au passage. Clément, le pitch de ce documentaire, s'il te plaît.
Alors, on suit l'apôtre Médard, qui est une sorte de sorcier guérisseur, adepte donc de magie blanche, qui d'un coup va être accusé de magie noire par la femme.
Le mari de la femme.
C'est le mari de la femme. C'est le mari de la femme qui accuse, oui, c'est ça,
oui,
qui accuse l'apôtre Médard. En fait, il y a une maison qui a brûlé parce qu'il y a eu un éclair, alors que c'était finalement une nuit tranquille. Et on accuse donc l'apôtre Médard d'avoir fomenté ce coup d'éclat pour.
Puis tout le quartier va se retourner un petit peu contre
tout
lui.
Tout le quartier va se retourner contre lui.
Même plus, parce que ça arrive dans la presse locale quand même.
C'est ça, il va y avoir une forme de quête de vérité de cet apôtre. Qui va ensuite aller vers cet apôtre qui va se recueillir, qui va lui aussi s'enfoncer dans la jungle.
Un documentaire un peu coup de cœur pour toi. Je sens beaucoup de tendresse.
Oui, je trouvais ça extrêmement beau. Ne serait-ce que parce que ça fait partie de ces films de facture très modeste qui arrivent tout de suite à mettre en place, non seulement, alors c'est un peu des trucs un peu éculés, mais une atmosphère, et aussi ce qui échappe à l'atmosphère, c'est-à-dire à filmer une forme de contre-champ. Et là, d'un contre-champ qui est quand même complètement. Qui est le contre-champ du contre-champ, qui est le monde de l'invisible, puisque l'apôtre Médard capture des sirènes dans des bouteilles d'eau, noircit des cahiers d'écriture illisible qui finit par. Qui chante un peu dans des espèces de litanie, de cérémonie un peu folle. Et aussi parce qu'il s'adresse aux morts, et donc à toute une forme d'outre-monde. Qui se retrouvent mêlés dans un endroit, donc c'est le Congo-Brazzaville, qui monte, où il y a toute une forme de fusion entre le moderne le plus puissant, puisqu'il y a aussi l'irruption de l'industrie chinoise, qui est très présente dans le film, et de tout un espace vierge et naturel qui est utilisé, ou d'un espace de carrière par exemple, qui sont utilisés, donc c'est-à-dire d'une modernité dévoratrice. Et évidemment, tout un système de croyances,
de tradition.
Qui a aussi quelque chose de très païen, puisqu'il y a une scène où il explique que ce sont les prêtres blancs qui ont en quelque sorte piétiné les saints, les saints ataviques primitifs africains, et où il y a donc cette idée de vouloir un peu trouver le film un peu sur une forme de ligne de crête entre l'onirique et le politique le plus trivial. Et au milieu donc de cette ligne de crête, il y a un personnage qui est vraiment fascinant, qui est ce personnage donc d'apôtre, l'apôtre Médard, qui est à la fois le mec le plus arriviste possible, parce qu'en fait il y a une forme de grand prophète qui est un peu son supérieur dans le monde des sorciers qui meurt, donc il va tout de suite courir aller récupérer ses habits quoi, dans vraiment l'habit fait le moine vraiment véritablement là dans cette idée, et qui en même temps est dans une forme de grande souffrance dès qu'il est accusé de manquer au juste dessein de sa magie. À partir du moment où il est accusé d'avoir fait le mal, ça devient il y a une répudiation qui arrive mais vraiment jusque dans la presse quoi. C'est-à-dire qu'il est il devient persona non grata. Donc c'est-à-dire on voit très bien que le jeu, les règles du jeu considèrent vraiment que l'invisible a un rôle. Et ça va jusqu'à une scène que je trouve extraordinaire. Il est donc accusé de sorcellerie. Il y a un procès, qui est un vrai procès, mais qui se règle à coups de mortier magique. C'est-à-dire, il met trois coups de mortier, il dit voilà,
c'est
le poudre à canon.
Ça passe 15-20 minutes sur cette scène, il y a des juges, il y a un jury, enfin, c'est complet, il y a des témoins. Et arrive le moment de la sentence, effectivement, et ça, c'est au mortier, et il dit, en gros, si je mens, que je me fasse écraser dans, par une caisse en sortant, ça se règle
et,
comme ça. Quoi.
Et c'est pas un simulacre, excuse-moi, pas un simulacre de procès. C'est-à-dire, il n'y a pas le côté... C'est aussi ce qui est très fort dans ce documentaire, c'est qu'il n'y a aucun regard ethnocentré... La grande fascination pour l'invisible, dans... tu trouves
on y reviendra, mais vas-y, je te laisse finir.
Je trouve que c'est justement l'idée que tout système politique est basé sur des croyances qui relèvent de l'invisible. Donc qu'il y ait une forme de fusion sans cesse, une sorte de fusion cosmique entre ce qui relève de la croyance et ce qui relève du politique ou du juridique, c'est ce qui, je trouve ça très intéressant. C'est pas un simulacre de procès, c'est-à-dire tout le monde y croit. Et donc c'est le plus important pour la justice.
Bien sûr.
Mais Nam.
Pour le coup, le procès m'a pas mal surpris dans le film, mais en même temps plutôt agréablement surpris parce que jusque là j'avais toujours cette question dans ma tête de le père Médard, est-ce que il croit vraiment en ce qu'il fait ou est-ce que c'est encore un chef de secte comme il peut y en avoir plein où en fait bah ils croient pas du tout à ce qu'ils font et ils font juste ça pour soutirer de l'argent. Et en fait non, dans le film tu te rends compte qu'il fait ça pour aider les gens parce qu'il retire pratiquement pas d'argent pour ce qu'il fait. Et le arriver et que ça arrive au procès, ça permet aussi de rendre compte du fait que c'est pas quelque chose d'isolé. Ouais. C'est pas une petite église, enfin que une petite église dans un petit village au Congo, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans leur société. À tel point que oui, bah il y a des rituels même au procès pour et puis même l'accusation au procès quand ils la font, c'est quand même oui la faute qui est tombée, quelqu'un a envoyé un mauvais esprit et t'as la femme qui accuse son mari, t'as le mari qui accuse le père Médard et t'as les jurés, ils font oui bah on sait comment on va faire pour enfin on peut prouver qui est innocent ou coupable, donc on va chercher. Toi t'es là, ah bon, d'accord. Donc ça marche vraiment comme ça aussi. Et donc ça, pour ce coup, je trouvais ça plutôt intéressant. Même voilà, le mec il a fait des études, il a une licence de guérisseur. Et en même temps, à côté de ça, il y a des moments, il y a des trucs qui font appel à des guérisseurs. Il y a d'autres moments, par exemple comme le prophète, le maître de Médard meurt. Et à un moment, il dit il est allé à l'hôpital trop tard. Tu fais ah bon, d'accord. Bah ils ont aussi ça. Donc ça, il y a un côté vraiment à la fois la modernité, comme tu disais, et les rituels ancestraux cohabitent ensemble. Et
jusqu'à un certain point. D'un sens comme de l'autre.
C'est ça.
Maxime, donc on l'a entendu brièvement. Il y a quelques points négatifs que tu aimerais soulever, ou en tout cas dont tu aimerais débattre.
En tout cas, je ne me mets pas en opposition avec ce que vous avez dit, parce que factuellement, c'est vrai. Et justement, c'est presque là le problème pour moi, c'est que je trouve que c'est un film assez factuel, dans le sens où. Pour moi, il y a une question centrale dans le cinéma documentaire, c'est est-ce qu'on fait un film sur ou est-ce qu'on fait un film avec ? Et là, j'ai l'impression que c'est un film sur. Je m'explique. Ce que j'adore dans le documentaire, c'est quand les auteurs s'intègrent à la forme qu'ils sont en train de créer. Et là, je ne sais pas qui filme, je ne sais pas pourquoi ils choisissent la distance qu'il y a, qui, à mon sens, est toujours un peu pas la bonne. C'est-à-dire que c'est toujours soit un peu trop près, soit un peu trop loin. J'ai pas envie de voir... Il y a un passage où il y a le corps d'un homme qui est recouvert de terre au moment où il meurt. J'ai pas envie de voir ça sans savoir pourquoi on veut me le montrer. En fait, il y a plein de moments comme ça dans le film où je me dis, mais en fait, pourquoi vous faites ça ? Quelle est la démarche ? Et où sont les auteurs derrière tout ça ? Et en fait, je me sens pas embarqué. Et j'ai, du coup... fait assez rare, j'ai été voir une interview de ces personnes-là. D'habitude, je me renseigne pas trop parce qu'à mon sens, les films doivent être les moyens de communication des auteurs, quoi. Et là, je suis allé me renseigner et même dans ce qu'ils ont dit, j'ai été un peu gêné dans le sens où ils ont dit que visiblement, ce personnage-là de l'apôtre Médard, ils en ont entre guillemets fait un casting, c'est-à-dire que j'imagine qu'ils ont rencontré plusieurs personnes avant de se dire c'est de celui-là dont on va raconter l'histoire. Mais même ce terme-là en fait me dérange, c'est-à-dire que il y a quelque chose où en fait ils cherchent à se cacher, alors que moi ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi ils ont été filmés ça, qu'est-ce qu'il y a comme fascination, pourquoi c'est différent de nous, puisqu'effectivement c'est différent de nous, et pourquoi le cinéma, en fait, ça crée cette rencontre et en fait, c'est toute l'essence du documentaire. Comment En tant qu'hommes différents, on peut se rencontrer autour de
Clément. Je suis complètement d'accord sur... Je pense que la thèse du film, c'est justement comment une croyance ancestrale peut survivre à l'ère de la modernité, c'est-à-dire à tout craint. Et donc, il y a une forme, effectivement, pour le coup, je ne savais pas qu'il y avait eu une forme de casting, de micro-casting, mais c'est assez intéressant, ça montre qu'il y a une forme de sérialisation presque de la pratique de sorcier. C'est-à-dire, en fait, on a l'impression que c'est extrêmement important et qu'il a un pouvoir démesuré, mais si ça se trouve, il a une sphère d'influence qui se résume à 4-5 maisons et un bouche à oreille un peu qui fonctionne un petit peu. Et je pense que j'ai l'impression qu'on voit quand même. Je sais que Corto Vaclav est anthropologue, si je dis pas de bêtises, ou ethnologue ou anthropologue. Et je sens qu'il y a une mise à distance qui est à la fois qui en fait un objet d'étude et un objet d'émotion. Il y a beaucoup de scènes où on le voit seul, complètement désemparé, dans sa quête un peu de rédemption, où il est en train de se purifier dans l'eau de la
cascade. Cette scène, quand il demande de l'aide à sa mère décédée sur sa tombe, où tu le vois, ça lui porte vraiment à cœur, même au-delà des gestes rituels, il est vraiment impliqué aussi dans ce qu'il demande.
Et la magie est aussi quelque chose de pécuniaire, c'est-à-dire qu'il est ruiné. Oui. Il y a aussi ça. C'est assez intéressant, ça.
Tout ça, c'est des éléments effectivement factuels, mais je rejoins Maxime, que je remercie, parce que j'aurais jamais su trouver ces mots-là sur finalement ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression qu'à vouloir à tout prix ne pas avoir le mauvais regard, ce qui est très louable, il en oublie un petit peu d'avoir un regard. Voilà. C'est ce que j'aime. C'est ce que je... Et en fait, à être très précautionneux, et c'est très bien, et heureusement qu'on l'est, heureusement qu'on n'arrive plus les pieds dans le plat comme on a beaucoup fait pendant longtemps. J'ai l'impression qu'il manque un peu de caractère à ce film. Hein. Il m'a manqué un peu de passion. Effectivement, factuellement, tout ce que vous avez dit est vrai. Il m'a manqué un petit.
Moi, je pense que ce qui manque, c'est un point de vue.
Carrément, un regard.
Oui, c'est ça, le film. Mais,
et en même temps, je comprends qu'ils n'ont pas voulu mettre ce point de vue.
Même si, par rapport au montage, le film se termine quand même sur le Médard qui va aller aider la sirène à quitter la carrière où elle était. Et ça, pour le coup, ça se termine vraiment parce qu'on t'entend parler des Chinois tout le long. Ouais. Et là, enfin, ça y est, tu vois leur machine,
tu vois les dommages,
qu'ils engrangent. Et là, tu comprends aussi un petit peu le côté, voilà, les esprits de la nature face à la modernité, des thèmes qu'on peut retrouver au Japon, tu vois. Sauf Maxime. Que ça fait partie de leur quotidien aussi.
Et surtout, il y a le dernier plan du film. Moi, je te rejoins, Nam, où enfin, en fait. Pour moi, il n'y a que dans le dernier plan du film, et je trouve ça dommage, où il y a cette espèce de mise en scène du mystique. Ce dernier plan qui est du coup un espèce de plan où on voit l'apôtre Médard jeter de l'eau dans le fleuve, j'imagine, et où la caméra recule jusqu'à s'enfoncer complètement dans l'eau. Et là, il y a une vraie mise en scène du mystique, et où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je voulais voir tout le long du film, c'est-à-dire pas quelque chose qui essaye de me faire croire que tout ce que je vois, c'est purement des faits qui se sont passés, parce qu'il y a même des moments qui sont rejoués, en fait. Il y a un découpage dans le documentaire, et c'est pas grave qu'il existe de la mise en scène, c'est normal même qu'il existe de la mise en scène dans le documentaire, mais je comprends pas pourquoi il y a tant d'efforts qui sont mis à me faire croire qu'il y en a pas, alors que ce que je demande, c'est en voir, quoi.
En fait, je pense que, la thèse, c'est vraiment quelle est la place au sein de la cité d'une personne comme l'apôtre Médard. Et en fait, je pense
mais dans ce cas-là, il aurait pu faire un livre, ça aurait coûté moins cher,
avoir voulu
et ça aurait été plus long pour nous à lire.
Mais je pense que vouloir mettre un point de vue, ça aurait un véritable point de vue, de même qu'aurait pu mettre en scène les réalisateurs eux-mêmes, ça aurait fait de l'apôtre soit un salaud, soit un illuminé. Et donc, dans tous les cas, ça le mettait hors société. Ça l'aurait mis hors société, je pense.
Son église, c'est quand même un truc assez particulier, parce qu'il a une croix chrétienne, il est quand même de... Il y a un aspect chrétien, et en même temps,
païen.
À côté, c'est totalement païen, c'est le culte des ancêtres, c'est les esprits, il est guérisseur et tout. Il y a vraiment à la fois... des rituels ancestraux et à la fois la chrétienté qui se sont mélangés.
Il est quand même garant d'une préservation d'une culture, quand même.
C'est ça.
Et ouais, bien sûr, mais
il est actif au sein de la cité.
Dans les films de Jean Rouch, ces trucs-là, on les comprend et pourtant on en sait plus de la personne de Jean Rouch. Enfin, je veux dire, il y a un échange.
Oui, mais par contre, Jean Rouch, lui, ce qu'on lui reprochait à l'époque, c'était de justement prendre trop parti et de trop imposer son regard sur le sujet. Il y a des critiques de Jean Rouch, c'est souvent là-dessus, mais en même temps.
Mais c'est pour ça qu'on fait des films, je crois. C'est pour avoir des regards.
Mais en même temps, sinon, le point de vue de Jean Rouch, c'est aussi ce qui fait que c'est un film de Jean Rouch. Là, c'est
absolument.
Vrai que. Bon, bah, voilà, Il y a moins ce regard-là qui est,
pas Jean Rock,
qui
est présent. Hein,
c'est pas le... non, c'est pas le même.
C'est pas le même du tout.
Chris Rock.
Quelqu'un de... non, pas, personne d'autre.
Mais c'est beau, c'est un combat de même sur la... autour de la même thèse. C'est intéressant.
Oui.
C'est
mais
c'est,
ça arrive souvent. Autour de tu... Non, mais tu rigolais, mais c'est, ça arrive souvent qu'on ait les mêmes arguments et les mêmes thèses, mais que.
Mais qu'on, défend, qu'on dise pas la même chose.
Que des points
non, parce que globalement, je pense que Robin et moi, on a pensé la même chose du film. C'est-à-dire que c'est pas un film sur lequel on peut avoir des reproches vraiment formés. C'est un film. Ouais, et puis c'est un film qui a en plus le mérite de pas durer très longtemps et qui. En... non, mais qui, dans ce peu de temps. A le mérite d'avoir du contenu quand même.
Ouais.
Moi, j'ai, vraiment, juste ce que je regrette, c'est l'absence d'un point de vue plus présent, mais c'est pas un film dont, enfin, avec lequel il y a une détestation profonde.
Non,
en fait. C'est plus des regrets que, du, que, voilà, que de la haine envers ça.
Oui, j'essaie surtout aussi de m'interroger sur pourquoi je suis pas rentré dedans, alors que j'avais toutes les raisons de le faire.
Et qu'en plus, si tu veux, tu peux appeler le père Médard sur son téléphone.
Tout à fait.
Parce qu'il le donne aux esprits à chaque fois qu'il se présente.
Car les fantômes, ils s'appellent.
Ils appellent sur les lignes.
Il y a un indicatif français où on peut appeler les esprits, alors ils répondent ou pas. Mais...
Il y a un Minitel.
Ça, c'est fort.
Bon. Merci beaucoup pour ce débat passionnant sur Congo.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.